C'était un mardi après-midi, un 16 juillet exactement. Ce petit garçon de 7 ans, bientôt 8, avait été jouer avec ses amis dehors et il avait passé une bonne après-midi. Maintenant, l'après-midi était déjà bien entamé et c'était pour lui l'heure de rentrer à la maison. Et juste avant de passer par la porte, il a levé les yeux vers la fenêtre qui était à l'étage. Et il y a vu sa sœur aînée en pleurs qui fermait les rideaux. Ce petit garçon est resté là pétrifié parce qu'il savait, en voyant ce qu'il avait vu, que sa mère venait de mourir. Elle était en réalité l'une des 30 millions de victimes de cette grippe espagnole qui avait frappé l'Europe en 1918. C'était le 16 juillet 1918. Ma grand-mère est morte ce jour-là de la grippe espagnole. Et presque un siècle plus tard, nous sommes encore en train de parler de cette grippe qui semble faire des ravages dans le monde. En 1918, il y a eu 30 millions de morts. Aujourd'hui, il y a tout juste 3-4 000 morts dans le monde à cause de cette grippe dont tout le monde parle. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous venez d'une autre planète. Alors, il y a toute cette inquiétude, cette effervescence, cette panique, cet affolement, ces discussions, cette politique, etc., etc., et toutes ces questions, vaccinés ou pas vaccinés, personne ne peut y répondre. Mais aujourd'hui, nous parlons encore de cette grippe. Comprenez-moi bien, je ne vais pas aujourd'hui vous dire ce qu'il faut faire, s'il faut être vacciné ou pas vacciné. Mais j'aimerais prendre ce fait de l'actualité, cette grippe qui court et dont tout le monde parle, comme une parabole, comme une image de cette grippe dont nous sommes tous atteints, qui s'appelle le péché. Alors, je ne suis pas en train de vous donner une recette cachée ni directe. J'aimerais prendre cette histoire de grippe comme une grande parabole de notre grippe spirituelle, le péché dont nous sommes tous malheureusement atteints. D'ailleurs, ce péché et cette grippe spirituelle ont des symptômes graves qui se ressemblent. La grippe produit une perturbation respiratoire sévère. Et vous savez que dans toutes nos crises spirituelles, il y a les mêmes symptômes. Vous connaissez ce passage que j'aimerais vous lire, où Ellen White écrit ceci, « La prière est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. Aucun autre moyen de grâce ne peut le remplacer pour préserver la santé de l'âme. La prière place le cœur en contact direct avec la source de vie. » Fortifie les muscles de notre expérience religieuse. Si nous avons cette grippe spirituelle, inévitablement nous allons sentir cette perturbation respiratoire profonde qui affecte notre vie de prière et qui nous empêche de garder ce contact avec la source de vie dont nous avons besoin, avec finalement cette source de guérison dont nous avons tous besoin dans le domaine spirituel. Alors il y a un certain nombre de précautions à prendre, vous le savez bien, quand on a la grippe. On en parle tout le temps. Permettez que j'en mentionne deux. La première, évidente, mais qui n'a malheureusement pas été évidente pour toujours, se laver les mains. On parle maintenant de se laver les mains. On a inventé ça comme une trouvaille extraordinaire pour se préserver contre les maladies. L'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 4, nous parlait déjà de cette dimension spirituelle de prévention de la maladie. Lisons, voulez-vous, ce passage dans l'épître de Jacques au chapitre 4. J'aimerais lire avec vous le verset 8. Épître de Jacques, chapitre 4, au verset 8, il est écrit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est déjà la première mesure préventive que nous sommes invités à prendre. Lavez vos mains. Et vous avez remarqué comment dans ce texte, le parallèle est fait entre laver vos mains et purifier vos cœurs. Il y a un nettoyage à faire. Un nettoyage interne, vous le comprenez bien. Et pour cela, j'aimerais reprendre ce passage du livre des psaumes qui nous en parle aussi. Dans le psaume 26, se trouve ce texte au verset 6, qui dit ceci. « Psaume 26, verset 6. Je lave mes mains dans l'innocence. Je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Je lave mes mains, dit le psalmiste, dans l'innocence. Et il vient à l'autel, là où précisément sont faits les sacrifices, pour le pardon, pour louer Dieu de ce qu'il a fait, pour lui redonner, pour lui rendre cette propreté intérieure, cette pureté du cœur. Laver les mains. Nous avons besoin de nous laver les mains, de laver notre cœur et de nous présenter à Dieu, pour que toute barrière entre lui et nous soit enlevée, pour qu'il n'y ait pas de virus qui vienne interférer entre lui et nous. Lavez vos mains. Nous avons lavé notre vie lorsque nous avons accepté le baptême. Et dans l'épître de Pierre, il nous est dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Bien entendu, notre vie, depuis, a accumulé un certain nombre de saletés. Mais cette expérience du baptême dans laquelle nous avons été purifiés est-elle devenue si vieille et si ancienne que nous nous en sommes écartés depuis le temps ? A-t-elle besoin de revenir à notre mémoire ? Avons-nous besoin de nous la remémorer pour nous souvenir quelle bénédiction il y avait dans ce contact proche avec Dieu ? Et puis, il y a une autre mesure préventive dont on parle beaucoup aujourd'hui. Attention où vous allez. Attention à ce que vous respirez. Et nous trouvons ce même conseil dans le même psaume 26. Regardez simplement avec moi les versets précédents, versets 4 et 5. Psaume 26, versets 4 et 5. Il est écrit ceci. « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. » Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Dans la version synodale, le texte est encore plus clair s'il n'a pas été encore suffisamment pour vous. Il est écrit ceci pour le même passage, « Je ne m'assieds pas avec les menteurs, je ne vais point avec les hypocrites. Je hais l'assemblée des pervers, je ne m'assieds pas avec les méchants. » Lorsque on est dans une situation d'épidémie, de grippe, on fait attention où on va, on fait attention ce qu'on respire, on fait attention de ne pas rester des heures à côté de quelqu'un qui est en train de cracher ses poumons. Vous vous souvenez d'ailleurs que l'apôtre Paul lui-même, dans son expérience spirituelle, nous dit le texte, respirait la haine contre l'Église. Il respirait un air pollué de virus, de haine et de contestation et de meurtre. Nous sommes invités à mettre un masque pour nous protéger et de ne pas respirer cet esprit de critique et de condamnation de l'Église. Certains ont été pris par ce virus-là et ne se sont pas rendus compte que cet esprit de critique et de condamnation est destructeur pour l'Église et pour eux. Il y a des mesures préventives à prendre pour ne pas attraper la grippe spirituelle. Et puis, il y a bien sûr le vaccin. Le vaccin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire s'il faut le prendre ou ne pas le prendre dans le cas de la grippe qui court plus de bouche à oreille que par rapport au virus. Je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il faut faire. Je suis en train de prendre une parabole. Entendez cette parabole, car ces paroles sont esprit et vérité. Le vaccin. Le système du vaccin, en réalité, consiste, soi-disant, à nous inoculer un peu de la maladie, un peu des virus, de sorte que lorsque nous y serons exposés, nous serons plus forts pour y résister. Mais spirituellement, cette logique est difficile à suivre. C'est un peu comme si je vous disais, prends un peu d'alcool, de façon à ce que lorsque tu seras tenté, tu auras plus de force pour résister. Quand on t'en présentera. Difficile de concevoir dans le domaine spirituel que le principe du vaccin puisse nous aider à grand-chose. Ce n'est pas une idée très fructueuse. Et le diable, en réalité, nous propose exactement ça. Si tu veux résister au mal, il faut que tu connaisses le mal. Si tu ne connais pas le mal, comment vas-tu savoir où est le mal et où est le bien ? Et cette proposition, il n'attend pas aujourd'hui pour nous la faire, il l'a fait dès le départ. Regardez dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, je vous propose de lire les versets 3 à 5. Genèse chapitre 3, les versets 3 à 5. Il est écrit ceci. « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Ève dit, Dieu a déclaré, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le diable a dit finalement à Ève, « Fais-toi donc vacciner contre la grippe du péché. Tes yeux vont s'ouvrir. » Oh, c'est sûr, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts sur sa misère. Ses yeux se sont ouverts sur sa nudité. Ses yeux se sont ouverts sur la dégradation qui s'était installée en elle et sur l'image désastreuse qu'elle présentait, qui n'était plus l'image de son Créateur. La logique du diable est la suivante. Si vous voulez être supérieur, si vous voulez être des adultes forts, il faut que vous soyez capable de faire la différence entre le bien et le mal. Mais comment allez-vous être capable de faire la différence entre le bien et le mal si vous ne connaissez pas bien l'un et l'autre? Vous ne connaissez que le bien. Eh bien voilà, je vais vous introduire au mal de façon à ce que, connaissant les deux, vous serez en mesure de discerner où est l'un et l'autre et faire un choix éclairé. Ça semble logique, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien là le piège de l'ennemi, qui veut en réalité nous inoculer un petit peu de cette maladie, du péché, mais juste un petit peu pour que les dégâts ne se voient pas trop vite, en nous disant « quand tu seras exposé au mal, tu seras plus fort pour résister », en réalité plus faible pour y répondre. Et c'est un peu, si vous permettez cette illustration, comme ces boissons qui circulent sur le marché aujourd'hui, qui sont à la portée de tous, et qui n'ont qu'un demi, que 1% d'alcool. C'est trois fois rien, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais il est là, ce pourcent d'alcool. Et il est devenu une habitude chez tous ceux qui consomment ces boissons. Il est là, ce petit pourcent d'alcool. Et il a entretenu ce désir. N'est-ce pas comme ça que l'on devient alcoolique ? L'alcoolique, ce n'est pas celui qui vomit dans le caniveau une fois de temps en temps. L'alcoolique, c'est celui qui est devenu dépendant de sa petite goutte d'alcool chaque jour. Et ne sommes-nous pas aussi, nous, devenus dépendants de cette petite dose de péché chaque jour que le diable nous a inoculée et dont nous sommes dépendants? Faites-vous vacciner! Vous connaîtrez le bien, vous connaîtrez le mal, vous serez plus fort, n'est-ce pas? Et il le disait bien, Adam et Ève, vous connaîtrez le bien et le mal, et vous serez par conséquent comme Dieu. Ils avaient été créés comme Dieu, à son image. Mais maintenant, par ce vaccin subtil que le diable leur a donné, ils n'étaient plus comme Dieu. Ils avaient en réalité détruit l'image de Dieu en eux. Ils étaient devenus mortels. Alors la stratégie du vaccin, spirituellement parlant, vous m'entendez bien, c'est la stratégie du diable, de nous mettre tout juste un petit peu de ce virus du mal en nous, pour qu'on ne s'en rende pas compte, pour que les réactions ne soient pas très importantes. Mais il a trouvé là l'accès à notre cœur en inoculant en nous ce virus du péché. Si le vaccin, spirituellement parlant, est la stratégie du diable, quelles sont alors les stratégies de Dieu pour nous protéger de la grippe du péché? Alors permettez ce matin que je vous en propose cinq. C'est fort simple. La stratégie de Dieu consiste à renforcer nos défenses naturelles. Et pour renforcer nos défenses naturelles, il faut aller chercher les vitamines naturelles qui sont à notre disposition. J'espère que les médecins qui sont dans la salle ne m'attendront pas à la sortie pour me donner un court résumé de médecine dont j'ai peut-être besoin à leur vue, semble-t-il. Pour renforcer les défenses naturelles, il nous faut prendre des vitamines. Alors il faut commencer par la vitamine C, la fameuse vitamine C. Elle intervient dans des centaines de processus dans l'organisme. Entre autres, elle contribue au maintien de la fonction immunitaire, très important. Elle active la cicatrisation des plaies, participe à la formation des globules rouges, etc. C'est une vitamine très importante. Vitamine C comme communion avec Dieu. Et j'aimerais prendre ce texte du livre des Psaumes, au chapitre 5. Psaume 5. Il nous est là parlé de cette communion avec Dieu, dont le psalmiste jouit. Psaume 5, au verset 3, à la fin du verset 3, il est écrit « C'est à toi que j'adresse ma prière éternelle. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Vitamine C, communion avec Dieu. Elle est nécessaire. C'est ce lien qui nous rapproche de la source de vie. C'est ce lien avec Dieu qui est si souvent menacé par les multiples agressions extérieures. C'est ce lien qui est menacé par les multiples activités qui envahissent notre existence et qui ont cette faculté de détruire la vitamine C dans notre vie spirituelle. Vitamine C, très importante. La deuxième vitamine que j'aimerais vous proposer pour renforcer les défenses naturelles, c'est la vitamine M. La vitamine M est essentielle, disent les médecins, à la formation des cellules du sang. Elle contribue aussi à lutter contre les insomnies, la fatigue et l'irritabilité. Elle favorise également une bonne récupération après l'effort. C'est dire combien elle est importante, la vitamine M, M comme mourir à soi-même. Alors prenez ce texte, voulez-vous, dans l'Épître aux Philippiens, où l'apôtre Paul en parle. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, l'apôtre Paul rapporte ses lettres de noblesse. Il rappelle à ceux à qui il écrit qu'il était hébreu et qu'il était le premier à obéir à la loi. Et au verset 8, l'apôtre Paul écrit ceci. « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » L'apôtre Paul rappelle que, ayant découvert la puissance de Christ pour le guérir du péché, il regarde tout le reste comme de la boue. « Je renonce à tout, je regarde tout comme de la boue. » Nous sommes invités aussi à prendre cette vitamine M, mourir à soi-même, renoncer à tout. Et vous savez très bien comme moi à quel point c'est difficile de renoncer à tout et de laisser Dieu conduire comme il le sait, comme il l'entend, avec amour et avec sagesse. La troisième vitamine que je vous propose à prendre pour renforcer les défenses naturelles, c'est la vitamine F. La vitamine F est constituée d'acides gras insaturés, disent les médecins, indispensables à l'organisme. Elle permet de brûler les graisses en luttant contre l'accumulation du cholestérol dans nos artères. Elle améliore la santé de la peau et favorise la perte de poids. Vous voulez que je vous en commande une caisse? La vitamine F, comme la foi. Dans sa première épître, Jean nous en parle. Première épître de Jean, au chapitre 5. J'aimerais lire avec vous cette petite phrase que vous connaissez et qui est très forte et lourde de sens. Elle se trouve au verset 4. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que nous voulons être vainqueurs sur cette maladie, vainqueurs sur le monde qui nous agresse de mille et une manières, vous le savez bien, que ce soit par la vue, que ce soit par l'ouïe, nous sommes agressés dans le monde d'aujourd'hui, et si nous voulons être vainqueurs, c'est en exerçant envers les principes de vie que Dieu nous donne, en exerçant notre foi, que nous pourrons réagir, que nous pourrons résister. Réagir avec foi dans le monde, c'est-à-dire exercer cette confiance totale en Dieu par rapport à ce qu'il nous a dit de faire et à faire même si nous ne comprenons pas pourquoi. Lui faire cette confiance totale, permanente, qui fait de nous de véritables disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent l'exemple de leur maître. Il y a une autre vitamine que je vous propose de prendre pour renforcer vos défenses naturelles. Celle-là, je l'ai inventée, c'est la vitamine O comme obéissance. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, il est encore question de l'importance de cette vitamine qu'est l'obéissance. Épître aux Hébreux, j'aimerais lire avec vous dans le chapitre 5, les versets 8 et 9. Il est question ici de Jésus et il est dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Si nous voulons, autrement dit, que ce salut dont Jésus nous a pourvu soit accessible à chacun d'entre nous, et nous devons créer ce lien de l'obéissance, par la foi justement, avec lui. L'obéissance, cette vitamine si nécessaire, qui est présentée par l'apôtre Paul d'ailleurs comme introduction et comme conclusion à son épître aux Romains, comme l'obéissance de la foi. C'est-à-dire, finalement, la conséquence logique de celui qui fait confiance à son Sauveur qu'il aime. Il agit sans même devoir obéir, c'est que l'obéissance devient sa réaction naturelle en sachant que son Sauveur l'aime au point de se donner pour lui. Vitamine O, l'obéissance, elle est nécessaire. Et puis, la cinquième vitamine que je vous propose de prendre pour renforcer vos défenses naturelles, c'est la vitamine J. La vitamine J, hydrosoluble, connue sous le nom de choline, appartient au groupe B. C'est la vitamine du foie, de la mémoire, de la lutte contre l'excès de cholestérol. Elle facilite la transmission de l'influx nerveux par la lécithine. Vitamine J, justice de Jésus. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, le prophète nous propose de faire le plein de cette vitamine. Ésaïe, chapitre 61, au verset 10, il est écrit ceci. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, dans d'autres versions, du manteau de la délivrance. » C'est ce manteau de la justice du Christ dont nous avons tant besoin. Que le Seigneur nous couvre de ce manteau, que le Seigneur nous donne la grâce de recevoir non seulement son pardon, mais de recevoir cette force nécessaire pour développer en nous son caractère, être couvert de ce manteau qui nous donne accès à la salle du banquet. Dans cette salle du banquet, il n'y a plus de virus, il n'y a plus de maladie, il y a tous ceux qui sont invités à partager ce repas lorsque Jésus revient. Alors nous sommes tous atteints de cette grippe maléfique qui fait le tour du monde et qui a atteint tous les hommes, tous les êtres humains, qui a fait de tous les êtres humains des malades du péché. Mais le diable voudrait que nous prenions ce vaccin pour nous guérir, dit-il, de façon à ce que, connaissant le bien, connaissant le mal, ayant un petit peu de tous ces virus, nous soyons plus forts, pense-t-il, pour y résister. En fait, il veut nous inoculer cette maladie, nous habituer au mal, de sorte qu'il fait partie de nous-mêmes et nous rendra ainsi plus faibles pour y résister lorsque nous y serons exposés d'une façon directe. Le Seigneur, lui, nous propose au contraire de renforcer nos défenses naturelles. Il nous propose de développer la communion avec lui. Il nous propose de mourir à nous-mêmes. Il nous propose de fortifier cette foi et cette obéissance de la foi et de recevoir la justice du Christ. Alors, si vous voulez prévenir la grippe, est-ce que vous avez pris vos vitamines aujourd'hui ? Amen.